Archéologie à la recherche de l'Homère historique. Un homme du nom d'Homère a-t-il réellement existé? Et les poèmes qui lui sont attribués, l'Iliade et l'Odyssée, sont-ils ancrés dans l'histoire? Des générations d'érudits se sont penchés sur ces questions et ont proposé des solutions très diverses. Mais est-ce vraiment important? Peut-être les querelles universitaires autour de l'historicité d'Homère et de ses récits ne sont-elles qu'un jeu, un débat académique stérile sans incidence sur notre appréciation des épopées ni sur notre compréhension de la Grèce antique? Cela importe, et il s'agit de bien plus qu'un simple jeu de pouvoir ou une joute intellectuelle. Le poète et ses poèmes peuvent révéler beaucoup de choses sur la Grèce antique, une fois que l'on a déterminé l'époque approximative de leur composition et la période qu'ils décrivent. Je crois que les récits d'Homère ont pris une forme proche de leur forme définitive, et ont été mis par écrit peu après, vers la fin du 8e siècle avant J.-C. Au moment où la culture grecque commençait à émerger d'un langage obscur, environ 1150 à 750 avant J.-C. L'Iliade et l'Odyssée pourraient éclairer d'un jour nouveau cette période obscure de l'histoire. Comme l'a déclaré Manfred Korfmann, archéologue à Troyes, en créant la première épopée à partir des mythes qui lui avaient été transmis, Homère a changé le monde. Dès l'Antiquité, ses poèmes exerçaient une véritable fascination. En décrivant un passé glorieux et héroïque, presque aussi grandiose que ceux de l'Égypte et de la Mésopotamie, Homère a influencé tous les aspects de la culture grecque ultérieure. Et les Grecs n'étaient pas les seuls à être touchés, lorsque le roi perse Xerxès envahit l'Europe en 480 avant J.-C., il aurait fait halte à Troie pour y offrir un sacrifice. Les récits poignants de la guerre de Troie ont contribué à rallier les Grecs sous Alexandre le Grand, 356 à 323 avant J.-C., qui fit lui aussi une offrande aux dieux à Troie. L'empereur romain Caracalla, 211 à 217 J.-C., qui se prétendait descendant d'Achille, se préparait à conquérir les Parthes, héritiers matériels des Perses et même des Troyens. Homère était si estimé dans l'Antiquité que les Grecs de l'époque classique le considéraient comme le poète par excellence, selon Platon. Ce dernier, écrivant au 4e siècle avant J.-C., à la suite d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, ne cite que les trois grands tragédiens athéniens du 5e siècle avant J.-C. Platon ne s'avançait d'ailleurs pas dans l'inconnu, Eschyle aurait observé que les dramaturges grecs considéraient leurs œuvres moins comme une compétition avec les grandes épopées que comme des morceaux du festin homérique. Cette fascination pour les poèmes épiques, à la fois exigeants et puissants, a naturellement suscité un intérêt pour la biographie d'Homère lui-même, ou d'elle-même, selon certains. Un auteur antique, identifié à tort comme l'historien grec Hérodote, a rédigé une biographie d'Homère. L'auteur conclut, il est prouvé qu'Homère est né 168 ans après la prise de Troie et 622 ans avant l'attaque de la Grèce par Xerxès, 485 à 465 avant J.-C., soit vers 1100 avant J.-C. Le véritable Hérodote, 484 à 425 avant J.-C., dans son récit des guerres médiques, situe la naissance d'Homère au plus 400 ans avant son époque, vers 850 avant J.-C. Divers auteurs ont situé le foyer du poète en Asie mineure grecque, sur le continent grec, en Sicile et même, comme le proposait Lucien au 2e siècle après J.-C., en Babylonie. Sans doute la suggestion de Lucien était-elle ironique, mais elle illustre le dilemme auquel étaient confrontés les anciens qui s'attaquaient au mystère connu sous le nom de questions homériques. Pendant un temps, ces questions furent largement ignorées. Après l'effondrement de l'Empire romain, tant en Occident qu'à l'Est byzantin, un empire qui, selon la tradition, aurait été bâti par des Troyens réfugiés à Rome après la guerre, la grandeur de la poésie d'Homère elle-même éclipsa les préoccupations relatives aux détails de sa vie. Plus tard encore, au Moyen Âge, l'intérêt général pour la Grèce classique déclina. Les poèmes d'Homère furent surtout perçus comme appartenant à une tradition curieuse et pervertie. Lorsque les chefs-d'œuvre d'Homère furent redécouverts à la Renaissance, les interrogations sur le poète refirent surface. Au XVIIIe siècle, les critiques littéraires voyaient dans l'Iliade et l'Odyssée une poésie simple, voire primitive, et donc un poète d'une époque bien antérieure à l'âge d'or raffiné de la Grèce antique, à la fin du 6e et au 5e siècle avant J.-C. Certains érudits, notamment allemands, soutenaient qu'aucun poète ne méritait d'être l'auteur unique de l'Iliade et de l'Odyssée. Selon ces critiques, les épopées d'Homère auraient débuté comme de courts poèmes chantés par des bardes illettrés. Plus tard, lorsque la Grèce s'est alphabétisée, ces fragments poétiques indépendants auraient été assemblés en un patchwork indigeste, selon l'expression d'Ulrich von Wilamowitz pour l'Iliade. Poussant cette thèse à son extrême, certains ont affirmé qu'Homère n'est qu'un type, le représentant de tous les ménestrels qui ont perpétué la poésie sous son nom. Si Homère n'a jamais existé, Qu'en est-il du monde qu'il a décrit? Avait-il des racines historiques? À cette question, les critiques ont apporté une réponse sensiblement identique. Certes, la guerre de Troie, qui dura 10 ans, a inspiré les rois perses et les empereurs grecs, mais même des personnages fictifs et des triomphes imaginaires peuvent jouer ce rôle. Homère a créé une vie qui n'a jamais existé, ni sur terre ni sur mer, un âge fabuleux de la Grèce qui ne saurait figurer dans l'histoire, une opinion qui compte encore des partisans. Ce verdict, cependant, a suscité l'indignation de nombreux admirateurs du poète. Comme l'écrivait Hérodote, la conviction exaltante que, depuis plusieurs générations, les plus grands érudits d'Europe s'étaient fourvoyés a surgi dans l'esprit du public avec une soudaineté surprenante peu après la Première Guerre mondiale. Les chercheurs se sont alors mis à réexaminer la poésie homérique et ont constaté que les épopées n'étaient ni aussi décousues ni aussi misérables que les critiques l'avaient prétendu. Les deux poèmes possédaient une structure de base, suggérant non pas un assemblage aléatoire d'histoires, mais une création artistique intentionnelle. Ainsi, la croyance traditionnelle selon laquelle les épopées étaient l'œuvre d'une seule intelligence créatrice, ou du moins qu'un seul poète avait composé chaque épopée, a retrouvé une certaine crédibilité. L'avancée la plus importante a sans doute été celle du classiciste Milman Paris, qui a démontré que la structure du langage, les répétitions et la forme métrique des vers homériques révélaient que ces poèmes étaient le fruit d'une tradition orale, et non écrite. Ces œuvres étaient chantées ou récitées bien avant d'être écrites, peut-être même bien avant. Le processus de création pourrait donc être daté de l'époque précédant l'écriture dans la Grèce antique, c'est-à-dire de la période préclassique. La question homérique est dès lors importante pour des raisons à la fois historiques et littéraires. L'Iliade et l'Odyssée pourraient conserver des souvenirs précis de la Grèce préhistorique. Mais où les situer dans cette période que nous savons aujourd'hui très longue? Une autre piste d'exploration du monde antique a apporté une réponse. Les vestiges matériels de l'âge héroïque de la Grèce ont été découverts et mis en lumière grâce aux travaux d'Heinrich Schliemann durant les 3 dernières décennies du XIXe siècle. Ces fouilles étaient inspirées par Homère. Schliemann recherchait la Troie du roi Priam et la Troie émissaine d'Agamemnon, et il les a trouvées. Les indications poétiques d'Homère étaient si claires, pensait Schliemann, que le poète avait forcément été témoin de ces lieux, peut-être même de la guerre de Troie. Les objets décrits dans les poèmes ont été identifiés comme des vestiges provenant des sites de Troie et de Mycène. Bien que ces objets ne portassent aucune marque de propriété, leur identification était néanmoins aisée. Il s'agissait de la coupe de Nestor, du tombeau d'Agamemnon, du trésor de Priam. Cependant, l'enthousiasme initial s'estompa à mesure que des divergences apparaissaient entre les découvertes archéologiques et la tradition épique. L'historien Ricard Panthéon vint à conclure que, si les poèmes faisaient référence à l'âge héroïque mycénien, environ 1200-1200 avenue J, C, les poètes épiques ignoraient presque tout de la civilisation au sein de laquelle ils situaient leur scène. Ainsi commence la recherche du contexte culturel des poèmes, dont la découverte pourrait permettre de dater le poète. Une première hypothèse situait le poète et sa poésie entre le X et le Y siècle avenue J, C, après l'effondrement des royaumes mycéniens. Nombreux furent ceux qui, cependant, privilégièrent la fin du VIe siècle, période de progrès rapide et remarquable dans le monde grec. Durant cette période, la croissance démographique, la spécialisation et le perfectionnement croissant des métiers, ainsi que le rétablissement des contacts avec le vaste monde méditerranéen, annoncèrent ce que les érudits appellent la phase archaïque, environ 750 à 500 avenue J, C, de la civilisation grecque classique. Un ou deux bardes talentueux, puisant dans les récits oraux transmis de génération en génération, ont fort probablement composé d'extraordinaires épopées du passé au moment même où celles-ci pouvaient être couchées sur le papier. On retrouve l'image d'un tel barde dans un hymne à Apollon de Délos, daté de cette même période. Son interprète fait ses adieux, suppliant les personnes présentes de « Souvenez-vous de moi si jamais un homme sur terre, un étranger fatigué par le voyage, venait ici et demandait « Ô accent circonflexe jeune fille, quel est pour vous le plus doux des chanteurs, qui fréquente ce lieu et dont les chants vous procurent le plus de joie ?» En théorie, l'historicité de ces épopées peut être vérifiée au regard des preuves archéologiques et écrites provenant de Grèce ou d'autres civilisations contemporaines. Cependant, aucun autre document ne fait mention d'une guerre de Troie, et l'écriture grecque mycénienne semble avoir été employée uniquement pour des documents administratifs, inventaire de biens, de personnel, de terres, de matières premières, etc. Aucun texte ne relate de conflits avec des peuples d'outre-mer égéenne. Nous en revenons donc à la question de la datation de la poésie et de son auteur. Si les épopées d'Homère se situent à la fin de l'âge du bronze, vers 1400-1200 avenue J, C, période de l'apogée de Mycène et de la destruction de Troie, elles sont plus susceptibles de décrire un monde réel. Or, nous avons constaté que de nombreux chercheurs ne trouvent pas de correspondance étroite entre les artefacts de l'âge du bronze et les références de l'Iliade et de l'Odyssée. Ils perçoivent néanmoins des liens entre les poèmes homériques et le Haut Moyen Âge, 1150 à 750 avenue J, C, qui suivit l'effondrement de la civilisation mycénienne. Une datation précise serait particulièrement précieuse pour les historiens, car la Grèce du Haut Moyen Âge était totalement analphabète. Si les preuves archéologiques et textuelles de l'âge du bronze sont limitées, celles du Haut Moyen Âge sont quasi inexistantes. Ainsi, si les poèmes décrivent effectivement les institutions et les valeurs réelles de ces siècles, les historiens pourront désormais entrevoir la nature de la vie durant les quatre siècles séparant l'âge du bronze de l'âge classique. L'âge sombre a constitué une sorte de pont entre le monde des palais des rois de l'âge du bronze et celui des cités-états archaïques. Durant cette période, tous les aspects de la vie furent transformés. Quel plaisir ce serait d'en savoir plus sur ceux qui ont survécu à l'effondrement mycénien, luttant pour leur survie dans des conditions extrêmement difficiles, au sein de minuscules communautés de 20 ou 30 âmes. C'est peut-être ce que décrit le bavard Nestor lorsqu'il évoque le retour de son butin en ville après un raid nocturne sur le bétail, Iliadixi, 669 à 682. Il est donc important de trouver une réponse, mais comment y parvenir? Les poèmes eux-mêmes offrent une solution plutôt inattendue. Une fois encore, les études de Milman Paris sur les épopées sont cruciales, comme nous l'avons vu. Paris a démontré que leur développement initial s'est fait par la tradition orale plutôt que par des compositions écrites. L'une des conséquences dues au Moyen Âge fut l'analphabétisme en Grèce. Avec la perte de la connaissance de l'écriture mycénienne linéaire B, la culture grecque devint dépendante de la transmission orale pour la mémoire et l'information. Puisque même les sociétés les plus simples ont besoin d'un moyen de transmettre le savoir à leurs jeunes, des techniques furent développées pour faciliter la mémorisation. La tradition orale grecque, telle que nous la connaissons dans sa forme finale préservée par les épopées, est extrêmement sophistiquée. La langue s'organisait selon un maître poétique reposant sur la variation des syllabes longues et brèves. Les poètes choisissaient leurs mots à la fois pour transmettre un sens précis et pour les enchaîner de manière mélodieuse. De fait, comme dans d'autres cultures orales, ces poètes accompagnaient régulièrement leurs vers d'instruments de musique. Une fois qu'une idée était convenablement adaptée à la forme poétique, elle pouvait être intégrée à des récits plus longs. Toute information, ou histoire, non ancrée dans un contexte plus large risque d'être perdue. De manière générale, les chercheurs ont constaté que la création d'une tradition se produit au cours des deux premières générations de transmission. Les longs récits étant plus difficiles à mémoriser que les courts, leur forme habituelle recourt largement à des procédés mnémotechniques afin qu'aucune information ne soit perdue, ni pour le narrateur ni pour l'auditoire. Les traditions orales réussies se caractérisent par des événements et des personnages hors du commun qui revêtent une importance immédiate pour le public. Le récit doit être agréable, mais sa fonction ne se limite pas au divertissement. Puisqu'il n'existe aucun autre moyen de préserver les règles, les coutumes et les croyances d'une communauté, la tradition orale transmet un enseignement pratique, les normes de comportement social et religieux, les modes d'utilisation des terres acceptables et les définitions du statut social. Ces informations ne relèvent peut-être pas de la grande littérature. Pourtant, intégrées à un récit d'événements palpitants et de figures héroïques, elles offrent un contexte culturel à ces événements et à ces personnages. Ainsi, les épopées homériques constituent une sorte d'encyclopédie, tant pour ceux qui les ont vécues que pour ceux qui les interrogent aujourd'hui. Dans la mesure où les mots sont éphémères, ils doivent être immédiatement compréhensibles pour ceux qui les entendent. Au fil du temps, les traditions orales évoluent, sous l'effet d'actions conscientes et inconscientes de la part des narrateurs. Le changement conscient survient lorsque l'information devient incompréhensible et, par conséquent, entrave le déroulement du récit. Si des objets patrimoniaux remarquables, tels que des coupes en or, peuvent être facilement visualisés, les institutions disparues, par exemple, les fonctions officielles d'un royaume perdu, peuvent poser problème. Le Lawajota, peut-être le chef de l'armée, du royaume de Pylos, à l'âge du bronze, est plus facilement commémoré comme berger du peuple. Deux caractéristiques essentielles d'une culture orale sont donc un corpus de traditions transmises et un moyen de moderniser ces traditions et de les rendre ainsi intelligibles à chaque génération. Ceux qui actualisent la tradition sont des artistes créatifs, les chanteurs, aidés dans leur tâche par les muses, filles de Mnémosyne, ou mémoire, et de Zeus. Les chanteurs sont également soumis aux intérêts de leur communauté, leurs efforts seraient évinçant l'adhésion de la collectivité. Il est révélateur que les artisans de la tradition soient, pour la plupart, Anonyme, il se fonde dans la masse. Pour autant, la poésie orale offre une grande liberté potentielle aux chanteurs, tout en devant forme et substance à des chants antérieurs, la force de chaque nouveau chant provient du talent de son interprète. Autrement dit, la connaissance de la composition et de l'interprétation orale nous permet de réintégrer Homère, c'est-à-dire un barde brillant, au processus créatif. Il peut s'avérer nécessaire de reconnaître plus d'un chanteur inspiré, surtout si l'on considère que le cœur historique des épopées se situe à l'époque mycénienne. Peut-être un chanteur ancien a-t-il initié un récit poétique suffisamment puissant pour être conservé dans les mémoires. Mais même cette hypothèse n'exclut pas l'existence d'un barde monumental qui a immortalisé les récits traditionnels grâce à l'art de l'écriture, récemment redécouvert. À l'instar des Grecs, nous pourrions tout aussi bien appeler ce dernier chanteur Homère. Si l'on peut dater Homère, dernier poète de l'Iliade et de l'Odyssée, du 8e siècle avant J.-C., le contexte de sa poésie reflète-t-il la même période? Ou bien ces épopées contiennent-elles des fragments d'histoires accumulées à travers les siècles, de la fin de l'âge du bronze jusqu'au 8e siècle? Et, dans ce cas, quelle est la part de la fin et celle de la précocité? Plusieurs échelles chronologiques peuvent aisément coexister dans les poèmes, témoignant de leur évolution séculaire par transmission orale. Il est toutefois essentiel de se souvenir du processus graduel de modernisation propre aux traditions orales. Puisque les épopées ont été mises par écrit dans l'alphabet, une forme d'écriture récemment adoptée et datant du 8e siècle avant J.-C., il est raisonnable de conclure que leur contenu ne posait pas de problème au public de cette époque. L'historien moderne peut donc également s'appuyer sur ces poèmes pour éclairer ce monde. Certains érudits établissent des correspondances précises, le nom d'Agamemnon, par exemple, pourrait désigner à la fois un héros de l'âge du bronze dont on se souvient et un roi qui régna sur la cité ionienne de Kymée à la fin du 8e siècle avant J.-C. D'autres, en revanche, trouvent des correspondances moins précises et estiment que les poèmes ne reflètent que les grandes lignes de la vie. Considérons les figures les plus importantes de ces poèmes. Les héros homériques sont désignés par le mot grec signifiant roi, basileux, nombre d'entre eux combattent à Troie, dans l'Iliade, et tentent de rétablir une vie normale en Grèce, dans l'Odyssée. Ces chefs de la société se caractérisent par deux qualités essentielles, ce sont des guerriers redoutables qui se tiennent en première ligne au combat et, forts de leur sagesse, ils prodiguent de précieux conseils. Des adjectifs spécifiques décrivent le basileux comme celui qui donne l'ordre, instaure l'ordre, régule et manifeste sa force par son apparence même. Ses facultés intellectuelles se manifestent par une éloquence remarquable, des conseils avisés, une maîtrise des assemblées et des échanges d'opinions avec d'autres sages. Les héros les plus remarquables des épopées acquièrent la renommée au sein de leur communauté grâce à ces qualités et affirment leur statut en acquérant des biens plus importants, notamment des terres et leurs produits, ainsi que des troupeaux. Bien que le rôle d'un tel héros dépasse le cadre familial immédiat, sa force repose avant tout sur sa propre maisonnée, ou écho. Du moins dans le monde épique, ces maisons constituent les plus grands groupes de parenté. Lorsqu'Ulysse cherche à réaffirmer son pouvoir à Ithaque, par exemple, il sollicite l'aide de son fils et de deux esclaves. En préservant et en enrichissant son oeco, un homme rallie d'autres familles, par l'intermédiaire de leur chef à sa cause. Il conserve l'allégeance des autres chefs de famille tant qu'il triomphe au combat et en matière de conseil, démontrant ainsi ses compétences par des acquisitions matérielles. En cas d'échec, le leadership passe à un autre, plus avisé ou plus fort au combat. Dans les épopées, la spécialisation du travail est présente, mais limitée. Athéna se déguise en marchande à la recherche de fer, ce qui, compte tenu de la modernisation inhérente à la culture orale, pourrait situer l'époque après l'âge du bronze, les bardes et les médecins exercent des fonctions spécialisées, on trouve même un orfèvre pour dorer les cornes des bêtes sacrificielles. Mais ces métiers sont rares, la plupart des gens, même les rois, se préoccupent de gagner leur vie en cultivant la terre et en élevant des troupeaux. Le monde homérique est également circonscrit à d'autres égards. Les terres non grecques sont étrangères et mystérieuses, redoutables lorsqu'elles sont peuplées de cyclopes cannibales, ou magiques lorsqu'elles abritent les Phéaciens pacifiques. La vie n'est ni facile ni prévisible, les dieux peuvent frapper sans prévenir. Les divinités sont une constante dans la vie humaine, mais leur présence reste toujours incertaine, car elles changent rapidement d'apparence. Les divinités n'en demeurent pas moins d'une importance capitale et méritent d'être traitées avec respect. Cette image présente une cohérence qui concorde avec les données archéologiques de la fin du Haut Moyen Âge, période où les communautés, bien que petites et compactes, étaient en expansion. Aucune classification sociale stricte ne divisait la population, les vestiges archéologiques de cette période indiquent une forte homogénéité des habitations et des sépultures, contrairement aux palais et aux tombeaux de l'âge du bronze. Les signes de spécialisation se font plus fréquents dans les vestiges matériels et, parallèlement, les premiers contacts avec le monde méditerranéen sont manifestes, tant dans les objets étrangers découverts en Grèce que dans les objets grecs mis au jour ailleurs. Outre la cohérence de cette image et sa correspondance apparente avec les données archéologiques dues au Moyen Âge, il existe un autre moyen d'identifier les références historiques des poèmes. Le Haut Moyen Âge se situe entre la civilisation mycénienne, mieux connue, et la phase archaïque de l'Antiquité grecque. La nature de chaque période est préservée dans les vestiges archéologiques, et nous savons qu'elles étaient très différentes l'une de l'autre. Au siècle précédant le début du Haut Moyen Âge, le monde mycénien était encore largement intact. Au 8e siècle avant J.-C., cependant, tous les palais et citadelles avaient disparu, et la Grèce était en pleine transition vers une nouvelle structure politique, sociale et économique, illustrée par l'essor de la polis, cité-État. La différence entre les deux types de structures politiques était frappante. Le Haut Moyen Âge fut une période de transformation, essentiellement d'uniformisation. Pour de nombreux historiens de la Grèce antique, les épopées d'Homère marquent la fin de ce processus de désintégration et l'aube de l'époque classique. S'il serait prématuré d'affirmer que le problème de la datation du poète ou de ses poèmes est résolu, la datation au 8e siècle avant J.-C. est privilégiée par beaucoup. Kurtraaf Loeb, l'un des plus éminents spécialistes actuels de ces questions, a publié un ouvrage intitulé Homère et l'histoire du 8e siècle avant J.-C., traduit de l'allemand. Se pourrait-il qu'une petite statuette en bronze représentant un joueur de lyre accompagné d'un garçon nous offre un aperçu d'un Homère du 8e siècle? La sculpture, datant d'environ 700 avant J.-C., montre le bras gauche du garçon touchant la hanche du joueur de lyre, comme pour le soutenir. Se souvenant qu'Homère était souvent décrit comme aveugle dans l'Antiquité, le classiciste J. Michael Penget admet que sans Homère, on n'aurait peut-être pas pensé à interpréter le geste du garçon de cette manière, mais c'est précisément à cette époque, où la renommée du poète s'étendait par-delà les mers, qu'il nous serait venu à l'esprit. Il n'est pas absurde d'imaginer un tel musicien voyageant de ville en ville, chantant pour gagner sa vie. Bien que son chant fût ancré dans le passé et contint des noms de personnes et de lieux de cette époque lointaine, il a fort bien pu être touché par la chaleur de l'accueil qu'il reçut et y ajouter des noms, immortalisant ainsi des personnes et des lieux qu'il connaissait. Pour définir le fondement historique essentiel des épopées, les chercheurs se sont concentrés sur des caractéristiques distinctes, les considérant comme des strates superposées, à l'instar des strates archéologiques. Une métaphore plus pertinente, à mon sens, est celle de l'arc-en-ciel. Cette image met en évidence les distinctions entre les teintes qui composent le spectre complet, une nécessité pour l'étude des poèmes, compte tenu des différences chronologiques inhérentes à leur forme finale. Mais cette métaphore suggère également que les poèmes, à l'image des arcs anciens, forment des entités intégrées à part entière. Des éléments anciens se sont mêlés à des éléments plus récents, des expressions poétiques traditionnelles se sont fondues avec des expressions nouvellement créées, et des thèmes chantés pendant des décennies se sont associés à de nouveaux thèmes. Nous avons ainsi un ensemble de couleurs datant du 8e siècle avant J.-C., et l'on ne saurait nous reprocher d'en attribuer la création à un chanteur de talent nommé Homère. Le monde grec. 1200-1200 avant J.-C. Fin de l'époque mycénienne. Des royaumes prospères, dotés de palais, de citadelles et de tombeaux somptueux, se développèrent en Grèce continentale, notamment durant les deux derniers siècles de cette période. À Mycène, dont la porte des lions est illustrée ci-dessus, ville qui donna son nom à cette époque, Heinrich Schliemann découvrit le masque d'Agamemnon figurant sur la couverture de ce numéro. Les Mycéniens sont réputés pour leur or et leur argent martelé, leur bronze fondu, leurs vases finement peints, leurs sculptures sur ivoire et leurs fresques, semblables à celles de la Crète minoenne. Leur système d'écriture, le linéaire B, était une adaptation de l'écriture minoenne, le linéaire A, encore indéchiffrable, permettant de consigner les documents administratifs dans leur propre langue, le grec. 1150 à 750 avenue J.-C. H. Sombre. Les grandes citadelles mycéniennes de Mycène et de Tirynthe furent détruites vers 1120. La chute de la civilisation mycénienne s'inscrivait dans un contexte de bouleversement majeur touchant les de la Méditerranée et le Proche-Orient, la civilisation hittite s'effondra, par exemple, et la cité cananéenne d'Ougari fut détruite. On sait très peu de choses sur la Grèce de l'âge sombre. Aucun exemple d'écriture grecque n'a survécu de cette période, ce qui a conduit certains, mais pas tous, érudits à conclure que l'écriture avait disparu, pour n'être redécouverte qu'au contact des Sémites durant l'époque archaïque. 750 à 500 avenue J.-C. Âge archaïque. PSAO 01010320 LJPG. Les cités-états grecs commencèrent à apparaître, ainsi que les premières colonies grecques en Italie et les premiers systèmes d'écriture alphabétique grecque. La plupart des érudits datent la mise par écrit de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère des 50 premières années de l'époque archaïque. Le poète Hésiode décrivit ses travaux et les jours vers 700. Le mathématicien Pythagore, ci-dessus, fonda un ordre religieux grec dans le sud de l'Italie en 530. 500 à 323 avenue J, C, H classique. En 462 à 461, Périclès instaura des réformes démocratiques à Athènes, ouvrant la voie à l'une des périodes les plus brillantes de l'histoire de l'humanité. L'Orestie d'Eschyle, une trilogie qui débute par le meurtre du roi mycénien Agamemnon à son retour de Troie, fut composée en 458. Le sculpteur Phidias acheva, en 432, les Frisquillons le Parthénon, ci-dessus. En 399, Socrate fut jugé et condamné à mort. Aristote fonda son école à Athènes, le Lycée, en 335. Alexandre le Grand, après avoir mené son armée jusqu'en Inde, mourut en 323.